Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour Judith Pérignon, vous êtes journaliste et romancière. Vous publiez L'Insoumis aux éditions Grasset. C'est le portrait de Mohamed Alioui. C'est en quelque sorte la suite d'un documentaire radio, une grande traversée qui a été diffusée sur France Culture durant l'été 2018. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Mohamed Alioui alors que je ne crois pas que vous êtes une grande spécialiste de la boxe et pas la boxe qui vous a d'abord intéressé chez cet homme?
Non, c'est vrai que j'ai un tropisme américain. Ce milieu du XXe siècle américain nous a fourni beaucoup d'images, beaucoup de musique. J'ai grandi avec ça, au fond. La figure de Mohamed Alioui, je la connaissais dans ses grandes lignes, ce qu'il incarnait. Et on entend encore parler de lui beaucoup, parce que c'est un des hommes les plus populaires au monde. C'est une figure noire, musulmane. C'est la figure de la colère, en fait, Mohamed Alioui. Et donc, revisiter cette histoire, parce que les mythes effacent généralement les détails et les tournants des histoires, revisiter cette histoire, c'est revisiter cette Amérique qui est toujours là finalement dans les fondements américains, et c'est re-raconter les détails d'une rébellion qu'on a toujours comme ça dans nos têtes.
Alors c'est évidemment un immense boxeur. Lorsqu'on voit un combat où Mohamed Alioui participe, on est toujours frappé par sa puissance, par sa technique. Également, Judith Pérignon, s'il fallait malgré tout le présenter à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas ou qui le connaîtrait uniquement comme un incroyable boxeur.
Alors, celui qui ne le connaît que comme un boxeur, il faut lui raconter la guerre du Vietnam, il faut lui raconter Nation of Islam, qui est le mouvement qui structure la pensée de Mohamed Alioui. C'est Nation of Islam qui va baptiser Cassius Clay, qui est un nom...
Pourquoi avoir décidé de changer de nom?
Parce que Clay, c'est le nom du sénateur Clay qui possédait, qui a donné son nom à ses esclaves. Hein. Tout noir américain a le nom du propriétaire des... Et donc, tout ce mouvement, comme Malcolm X était membres de ce mouvement, ont décidé de changer leur nom, de prendre des noms musulmans, puisque ils se référaient à Allah. Alors, c'était pas l'islam classique d'aujourd'hui, même si beaucoup l'ont rejoint aujourd'hui, mais ils se sont recréés une histoire, une identité qui n'était pas celle que leur maître leur avait définie.
Avec une dimension extrêmement subversive, vous avez parlé de la guerre du Vietnam, il a pris des positions qui étaient proprement scandaleuses dans l'Amérique de l'époque, Judith Pérignon.
C'est-à-dire qu'il a... Sa chance au départ, c'est qu'il n'était pas éligible, il ne devait pas partir parce qu'il n'avait pas passé les tests. Et puis, il a fallu qu'il parte. Et là, il n'a pas voulu partir. Et il a eu cette phrase. Il avait peur, au fond, au départ. Mais il a fini par avoir cette phrase. Les Vietcong ne m'ont jamais traité de nègre. Donc moi, je ne peux pas me battre pour ce pays. Et même si c'est son mouvement aussi qui le poussait à ne pas y aller. Il était ambivalent. Il était effrayé d'affronter comme ça, aussi violemment, les États-Unis. Mais il a dû aller au bout parce qu'il était devenu l'incarnation de cette époque.
On va écouter un extrait de votre grande traversée, Judith Pérignon, celle que vous avez consacrée donc au boxeur Mohamed Alioui.
Well, first of all, I would like to say I'm not here to make a showdown plea, as the press has played up.
Je ne suis pas là pour un plaidoyer.
And didn't intend to hurt anybody who had children or sons that are dying.
Et je ne voulais pas heurter ceux qui ont des enfants. Un fils là-bas au Vietnam. Voilà mes excuses.
So anything else concerning the army will be taken up with the army. Anything else concerning this A1.
Maintenant, tout ce qui relève de mon incorporation de l'armée sera discuté avec l'armée et non pas devant une commission sportive.
Je répète ma question. Est-ce que vous vous excusez pour votre déclaration antipatriotique?
Sir?
Pardon?
Je vous demande si vous vous excusez de vos remarques antipatriotiques.
Je n'ai pas à m'excuser ici de ce que j'ai dit. Je suis champion du monde. C'est une commission sportive. Je suis ici pour pouvoir défendre mon titre.
C'est l'un des documents incroyables que l'on peut entendre, réentendre dans votre grande traversée que vous avez consacrée à Mohamed Alioui. Maintenant, cette grande traversée est devenue un livre, L'Insoumis aux éditions Grasset. Mohamed Alioui se défend, et quelle défense!
Oui, parce que voilà, la fédération de la boxe va le suspendre. Hein, il va plus pouvoir boxer pour avoir déclaré pour antipatriotisme. Mmh. Et en même temps, il sent que les choses s'emballent. Il n'a pas envie de déplaire complètement à ce pays. Mohamed Ali, il est déjà dans tous les shows télé, dans les émissions pour blancs. Il aime sa popularité. Et là, il va se trouver vraiment à... Donc, il s'excuse pour toutes ces familles qui ont un fils au Vietnam. En même temps, il doit être très fidèle à ce mouvement Nation of Islam, qui le dirige vraiment, il est sous tutelle, hein, Mohamed Ali, et en même temps il veut boxer. Donc là il est complètement écartelé. Et pourtant c'est vraiment cette guerre du Vietnam et son refus d'y aller va marquer la légende.
Mais il est écartelé, ça veut dire qu'il avait la tête politique ou bien alors c'était une marionnette Mohamed Ali? Comment expliquer ce trajet, la manière dont il s'est façonné une culture politique, Judith Pérignon?
C'est un homme très instinctif, c'est un homme qui était... qui avait du mal à lire, par exemple, qui lisait peu, hein, qui était sorti de l'école très tôt, qui était quand même habité par la question noire parce qu'il avait subi la ségrégation, que même son père essayait quand même de rejoindre, avait aimé ces mouvements qui parlaient d'un retour aux racines africaines. En même temps, il veut être populaire, il veut être un boxeur riche, aimé, et il se construit parce que son époque le construit, au fond. Le même homme, 20 ans plus tard, serait pas devenu Mohamed Ali. C'est un mouvement de radicalité, de violence. Il y a les Black Panthers, il y a Nation of Islam. La question noire se structure à ce moment-là, avec, ou parallèlement, ou contre même Martin Luther King, qui est trop modéré pour eux. Hein. Ils sont anti-Martin Luther
Pourquoi
King. Pourquoi? Parce qu'il faut affronter l'homme blanc. Parce que Martin Luther King veut la réconciliation.
C'est-à-dire, il ne veut pas de mouvement lénifiant.
Voilà, c'est ça. Il veut pas. Il faut un moment affronter l'homme blanc. Sinon, l'homme blanc restera l'homme dominant. Et la question reste posée aux États-Unis.
Alors ça, c'est pour Martin Luther King. Et cependant, il va trahir Malcolm X.
Alors c'est une relation magnifique, moi, qui m'a passionnée. Ils sont très liés, très liés. Justement, il y a cet intellectuel noir, Malcolm X, prêcheur de Nation of Islam, qui va s'émanciper de ce mouvement et qui, en même temps, lui est fasciné par la force physique et l'instinct de Mohamed Ali. C'est comme deux frères. Et pourtant, quand Malcolm X, effectivement, s'écarte de Nation of Islam, qui, dans ce cas-là, menace quasiment de mort ses membres, eh bien, il se tait, voire il l'accuse de trahison. Et donc... Moi, et je pense que les gens de l'époque ont senti que si Mohamed Ali avait peut-être plus soutenu Malcolm, je ne sais pas si l'histoire aurait changé, mais ça aurait été un plus beau geste, oui.
Alors, parler de geste, il faut quand même parler de boxe, parce que c'est avant tout un incroyable boxeur. Et c'est quelqu'un qui allie une technique et une puissance rarement vue. Comment s'est-il construit comme boxeur, Judith Pérignon?
Il s'est un peu construit contre les autres. C'est-à-dire qu'au départ même, il faut réécouter les archives, on l'a eu. On pense qu'il ne va pas tenir, avant de devenir champion du monde, dans l'heure qui précède, personne pense qu'il va tenir un round contre Sonny Liston. En face de lui, qu'est-ce qu'il a? Il a des boxeurs, ce qu'on appelle la brute noire, quoi. C'est des frappeurs. Lui, c'est un danseur. Il esquive, il recule, il bascule, il balance, il joue vachement sur ses jambes, il danse. Et donc, il a aucune crédibilité dans la boxe. Et il surprend tout le monde. Et il met son adversaire en colère. Donc, il joue la psychologie. Il les met en colère, donc sans tactique. Et donc, il va surprendre son monde. Et c'est comme ça qu'il va aussi construire la légende du côté du sport et revisiter complètement la boxe.
Mais la boxe n'est pas uniquement un monde pour les Noirs, il y a aussi beaucoup de Blancs, et là aussi il va devoir composer Mohamed Ali.
Les Blancs sont là, mais les poids lourds, dans catégorie poids lourds, c'est un monde dominé par les Noirs. Et entre les derniers titres de championnat, c'est souvent entre Foreman, Frazier, Liston, ce sont des hommes noirs. Et le ring devient une vraie métaphore de leur combat. C'est un vrai sanctuaire pour eux, parce qu'ils ont une force que la société ne leur donne pas, et c'est une vraie métaphore.
Une métaphore et aussi une manière de révéler l'Amérique des années 60 avec les combats qui s'y livrent, la question raciale, la question de l'émancipation des Noirs et les combats qui se livrent à l'époque. Justement, comment avez-vous décidé de raconter cette vie? Parce que l'une des spécificités de votre livre et de la grande traversée que vous avez faite, Judith Pérignon, c'est de retrouver les témoins de la vie de Mohamed Ali.
Oui, alors moi j'aime bien, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Ali, je viens d'ajouter le mien, mais j'aime bien aller trouver les acteurs, les gens qui étaient proches de lui ou autour du ring ou dans ce mouvement Nation of Islam. D'abord parce que ce sont de vieux messieurs maintenant, c'est des gens qu'on n'entendra plus dans 10 ans, et l'histoire décante encore dans leur tête. Justement, cette question, alors puisqu'il y a toujours eu des polémiques sur certaines victoires, la question sportive, la question de la mort de Malcolm X.
Polémiques sur certaines victoires, c'est-à-dire préciser.
Oui, bah par exemple le deuxième match contre Sonny Liston. Hein, voilà, c'est un coup, c'est au bout d'une minute et Liston est par terre. Donc il y a toujours eu polémique, savoir si c'était un match acheté encore par la mafia.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah, moi j'ai aucune certitude. Hein. Je pense que les gens sont très divisés.
Un KO en une minute, ça vous paraît possible ?
Oui, oui. En plus, Sonny Liston était peut-être pas en meilleure forme. On ne sait pas. Et finalement, c'est pas ça qui m'a intéressée. Je me suis dit que moi, l'histoire, elle avait besoin de Mohamed Ali. Donc, tant mieux si c'est lui qui.
Mais parce que ça montre que ce héros, comme d'ailleurs tous les héros, bien entendu, n'est pas un héros pur. C'est quelqu'un qui a bien entendu composé. Vous l'expliquiez tout à l'heure. C'est à la fois quelqu'un qui aimerait incarner la cause noire, mais qui ne veut pas malgré tout se mettre les blancs à dos. C'est quelqu'un qui est plongé dans un monde, la boxe, qui n'est pas un monde pur. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, mais alors là, s'il y avait eu tricherie, ce serait pas de sa part. C'est plutôt Liston qui, lui, était complètement instrumentalisé par la mafia, qui pourrait avoir misé Ali ou Cassius Clay et demander à son champion de se coucher encore une fois. Donc on ne sait pas et ça reste un des beaux mystères de l'histoire.
Vous avez retrouvé ces témoins et cela montre également comment ce personnage s'est construit dans les années 60 et puis les époques postérieures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste justement de Mohamed Ali dans les mythologies américaines, Judith Pérignon ?
Bah alors, l'Amérique fait comme toujours, c'est-à-dire qu'il s'est opposé au pays, il l'a divisé, et aujourd'hui, l'Amérique a complètement absorbé le mythe Ali au point d'effacer toutes les aspérités du personnage. C'est pour ça que le mythe Ali, il est aussi intéressant de le visiter en Afrique. C'est un des hommes les plus aimés en Afrique, y compris des jeunes générations.
Qu'est-ce qu'il incarne pour les jeunes Africains ?
Il incarne cet homme noir qui a défié le géant américain, qui est revenu aux sources africaines. Le voyage d'Ali au Ghana est un bain de foule hallucinant. Aucun dirigeant n'a connu une telle foule en liesse derrière Ali qui savait rien de l'Afrique, qui la fantasmait. Et c'est Ali Boumaye, c'est l'homme qui vient se battre à Kinshasa. Et l'Afrique en parle encore. Les chanteurs du rap en parlent encore. Il incarne un moment du Black is Beautiful, alors que tout ça est quand même retombé après.
Alors ce qui est étonnant, c'est que vous publiez L'Insoumis, donc ce livre chez Grasset, au sujet de ce boxeur Mohamed Ali, au moment où un autre boxeur apparaît en tout cas pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de boxe. Les spécialistes, eux, le connaissent depuis longtemps et il est une autre manière d'être Ali. Il s'agit d'Anthony Joshua et aujourd'hui, celui-ci tente de reprendre une partie de la mythologie. Si vous deviez présenter Joshua aux auditeurs de France Culture.
Alors, je le connais moins qu'Ali, mais c'est effectivement, on voit bien qu'il s'inscrit dans... Dans quelque chose de plus large que la boxe. Il est retourné au Nigeria, il est allé rechercher encore une fois la question africaine, donc la question de l'homme noir. Il a aussi beaucoup parlé, il a rencontré Obama. Donc pareil, il élargit le ring et il en fait un perchoir pour parler de la question noire.
Alors ça n'est Joshua, à la différence d'Ali, n'est peut-être pas le meilleur boxeur aujourd'hui sur les rings, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aimerait reprendre une partie de la mythologie, ce qui veut dire que cela fonctionne encore. Ça fonctionne d'autant plus que la boxe est devenue ou redevenue un sport très à la mode.
Très à la mode et qui se blanchit d'ailleurs du coup. Manhattan, et donc c'est redevenu un sport de petits blancs branchés, et c'est intéressant parce que c'était vraiment.
Bah oui, beaucoup de gens en boxe aujourd'hui, même Édouard Philippe, mais on a dit qu'on reparlerait pas tout de suite des retraites par points, Judith Pérignon. Si on prend les différents personnages auxquels vous êtes intéressés, vous êtes notamment intéressé à Sinatra ou à Bruce Springsteen, deux autres visages de l'Amérique. Et si vous deviez nous dire comment ils s'articulent, Springsteen, c'est lui aussi un boxeur, un lutteur.
Oui, c'est un lutteur sur scène via le rock. C'est l'enfant de la classe ouvrière américaine. Mais tous ces personnages se répondent. D'ailleurs, quand j'ai fait 4 grandes traversées pour culture sur des visages américains différents, et on retrouve toujours les mêmes fondements, les origines sociales, là où ils grandissent, comment ils se construisent, la musique qui débarque, la musique des années 60. Et c'est amusant comment on retombe parfois même sur des chansons, sur des émissions de télé. Et c'est une Amérique qui vieillit, puisque c'est l'Amérique du siècle dernier. Mais je crois qu'on la voit encore dans la manière dont le pays vit à l'époque Trump aujourd'hui. Trump réveille les divisions de cette époque-là.
Mais justement, c'est assez paradoxal parce qu'on a toutes ces figures de lutteurs. Alors, je pense à Springsteen, évidemment à Mohamed Ali. Et puis, on aboutit à Trump. Quel paradoxe dans cette époque, Judith Pérignon.
Mais je crois que dans ces années 60, dont Ali a été... la grande figure, une des grandes figures, on a vu deux Amériques. Une Amérique conservatrice et une Amérique progressiste qui a émergé de cette guerre du Vietnam, de ce débat, de cette lutte pour les droits civiques. Et il y avait beaucoup de blancs aussi de ce côté-là. Et aujourd'hui, Trump, il ravive ces plaies-là, au fond, qui ne sont pas cicatrisées. Revoir venir le suprémacisme blanc aux États-Unis, qui n'a jamais été enterré, mais qui était quand même... calmé, on a même vu un président noir, ça prouve que toutes les plaies ouvertes à cette époque-là sont toujours là.
Et ça veut dire que l'Amérique entretient quel type de rapport avec ses héros, Judith Pérignon? Parce que là aussi, il y a une manière particulièrement américaine. On sait qu'aux États-Unis, on trouve une multitude de Hall of Fame, je ne sais même pas comment traduire ça, c'est-à-dire d'endroits qui sont dédiés à la célébrité, avec un culte de la célébrité, et puis avec aussi des monuments, souvent à des contemporains, parce que la plupart de ces célébrités sont des contemporains, et certaines d'entre elles sont oubliées peu de temps après.
Oui, l'Amérique, elle aime bien après se ressouder, voilà, et récupérer, absorber toutes les figures qui ont marqué son histoire, qui ont marqué sa culture, et presque oublier finalement tout ce qui les a fait naître, toute la colère qu'ils portaient, toutes les divisions qu'ils incarnaient. Donc, ces héros permettent aussi aux États-Unis de perpétuer ce rêve américain, cette légende américaine.
Il y a aussi des célébrités françaises parmi les boxeurs. Alors, on pense bien entendu à Marcel Cerdan, mais c'est tout à fait différent.
Oui, c'est notre... Une autre mythologie, mais on retrouve quand même chez le boxeur, et c'est pour ça que le boxeur a tant inspiré la littérature, le cinéma, c'est l'homme face à l'homme, c'est l'homme face à la vie, c'est généralement le dépassement de l'homme.
Merci Judith Pérignon pour ce très beau portrait d'un boxeur, l'insoumis chez Grasset.